19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir chers amis auditeurs, merci de nous suivre et merci d'être de plus en plus nombreux. C'est effectivement un grand plaisir. On est ensemble jusqu'à 20h-20h pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Vous le savez, le ton n'a pas changé, on analyse, on décrypte. Et puis, priorité aux auditeurs. Les auditeurs, vous êtes prioritaires, je vous le dis tout de suite, lorsque le téléphone... Voilà la petite clochette, évidemment. 01 53 48 3000, lorsque ça sonne, eh bien, vous êtes prioritaire jusqu'à 20h sur les sujets. Alors, au sommaire de cette émission d'abord, eh bien, les élections européennes commencent à battre leur plein. Et ça y est. Pourquoi je dis cela? Parce que, tout simplement, M. Jordan Bardella a, paraît-il, lancé la campagne. Ça mérite une petite clochette, quand même. Sauf que, vous savez quoi, certains d'ailleurs, ont remarqué qu'il avait oublié le drapeau européen alors qu'on est en pleine élection européenne. Je peux vous dire que sur le Twitter, sur X, pardon, ça a beaucoup, beaucoup commenté. Mais mon cher Jordan Bardella, vous aviez pensé à ces élections européennes sans drapeau européen quand même? Bon, bah venez en parler ici justement dans Les Informés. On sera ravis de vous accueillir, n'est-ce pas, clochette? On reçoit aujourd'hui notre invité politique, vous savez, c'est Jean-Marc Covarattoni qui sera avec nous. Il est le président d'Écologie au Centre. Je vous présente pas Écologie au Centre parce que, franchement, hein, ils envahissent les studios. Je sais pas, le président, il a décidé, il a envoyé ses émissaires, il a dit allez-y, envahissez les médias. Ils sont nombreux à participer aux informés. Je sais pas ce qui s'est passé, je les ai pas vus arriver. Hein. On en parlera justement tout à l'heure, dont un que vous connaissez, hein, une voix que vous connaissez très bien, hein, Philippe Nadji-Bouriaki et évidemment et tous les autres. Nous parlerons de trois sujets qui ont retenu notre attention après avec les débatteurs influenceurs tout à l'heure. Et on reviendra sur l'IVG. Ça y est, désormais, le vote a été effectué. Hein, et puis, à Versailles, vous savez, c'est, comment dirais-je, l'exaltation, la liberté. On en reviendra sur cette actualité qui a été énormément commentée. On reviendra aussi sur les propos du président de la République, avec notamment l'Ukraine, ses fameuses troupes. Finalement, il revient sur et il réitère sa déclaration en disant que je pèse mes mots, mais je les mesure également. Que cherche-t-il Emmanuel Macron? Eh bien, on en parlera tout à l'heure. On reviendra aussi enfin sur eh bien, la vice-présidente américaine qui tape du poing sur la table, c'est le moins qu'on puisse dire, qui alerte Israël, qui dit maintenant, j'appelle un cessez-le-feu immédiat. Mais sauf qu'en Israël, est-ce qu'on l'entend de cette oreille? Eh bien, on reviendra sur cette actualité. C'est l'actualité qui inquiète beaucoup, beaucoup parmi vous. Et puis, à toute fin d'émission, à 19h50 tout à l'heure, nous recevrons l'éditorialiste Michel Taube, qui est le patron d'Opinion Internationale, qui viendra avec son édito, comme chaque lundi, son billet d'humeur. Allez, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec, vous le savez, eh bien, Jean-Marc Covarattoni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président d'Europe, d'Écologie au Centre.
Tout à fait.
Alors, Écologie au Centre, dites-moi d'abord, monsieur le président, j'aimerais vous situer, parce qu'on a un peu de mal quand même, hein, c'est un peu le flou total. Vous dites, ni de gauche, ni de droite. Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est... Vous êtes plutôt du centre droit, hein, l'écologie à droite, plutôt à droite. Vous, vous répondez quoi?
Mais en fait, on ne dit pas ni de gauche, ni de droite. On dit écologie au centre parce que l'écologie, pour votre intérêt, pour mon intérêt, pour l'intérêt des personnes qui nous écoutent,
mais n'est-ce pas démagogique de dire ça ?
Et donc, nous mettons l'écologie au centre parce que nous avons le devoir de parler à tous les électeurs, parce que la seule solution pour le bien commun en France, en Europe et dans le monde, c'est l'écologie au pouvoir. Mais pour que l'écologie soit au pouvoir, elle doit parler à tout le monde et pas que à la gauche.
N'est-ce pas démagogique de dire ni à gauche ni à droite? C'est pas un peu, ça nous rappelle, vous savez, un fameux Emmanuel Macron.
Mais le fait est que lui était clairement de droite. Il est, nous le respectons, comme nous respectons ELV qui est clairement
pourtant,
de gauche.
Pourtant, il était de gauche.
Mais le fait est que
au début, hein, souvenez-vous.
C'est dans le propos, oui. Mais en politique, ce qui compte, ce sont les actes et non pas les propos. Et le fait est que l'expérimentation de la gauche en France et dans le monde et en Europe. Et l'expérimentation de la droite en France, en Europe et dans le monde, ça n'a pas fonctionné. La seule chose qui peut fonctionner, c'est une politique centriste, écologiste, comme je l'ai démontré dans mes ouvrages.
L'écologie au centre, on va en parler. Vous avez tweeté, j'ai obtenu réparation, ils ont été condamnés. Nous sommes tous concernés sur Internet, n'importe qui, n'importe quoi. La liberté d'expression cesse au moment où l'idéologie, hein, diffamatoire commence. Une justice juste et efficace est un pilier essentiel de notre démocratie. vous êtes réjoui clairement là. On peut rappeler un peu les faits.
Oh ben effectivement, ben aujourd'hui quand vous menez une action politique au niveau national, il y a toujours des couillons sur internet qui racontent n'importe quoi, donc je l'ai subi aussi. Donc je suis solide, donc je l'ai accepté une fois, deux fois, mais à la 185e fois, je me suis fâché. Donc j'ai pris un avocat qui est Maître Sylvain Pont, qui est très bon, et malheureusement dans notre pays en termes de diffamation, une fois sur deux vous perdez, c'est incroyable, mais là c'était tellement énorme que nous avons gagné. Le tribunal a très bien fait son travail, comme c'est souvent le cas, malgré la surcharge d'activité qu'ont les greffiers et les juges. Et donc, effectivement, ils ont été condamnés sévèrement et c'est très bien.
Dites-moi, Monsieur le Président, justement, un sujet d'actualité, l'IVG, ça y est, c'est désormais inscrit dans le marbre, vous savez, dans ce qu'on appelle cette fameuse Constitution. Alors, aux yeux du monde, hein, ils vont observer ça avec beaucoup d'attention. Vous, vous dites quoi, franchement, l'IVG qui est inscrit désormais dans la Constitution?
Ben, d'une part, je suis évidemment 100% favorable à la loi de Simone Veil. Et c'est heureux que dans notre pays, voilà un demi-siècle, que l'avortement a été légalisé. Et c'est très, très bien. Mais la constitutionnalisation de l'IVG aujourd'hui, c'est que du marketing. C'est un concours de mensonges et de démagogie. C'est incroyable.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que tout le monde qui connaît les députés et les sénateurs savent très bien que la majorité d'entre eux... ils savent que ça sert à rien de le constitutionnaliser, la loi suffit, parce que quand ils vous disent, oui, mais s'il y a de nouveaux politiques au pouvoir, ils vont changer la loi, ben alors ils vont changer aussi la Constitution. Donc c'est du grand n'importe quoi. La problématique de l'avortement, c'est d'une part l'accès des femmes à l'avortement, ça c'est un problème à régler. D'autre part, il y a la problématique de la clause de conscience du médecin, pour qui ça peut être plus compliqué à l'avenir par rapport à ce fait constitutionnel. Et puis surtout qu'il faut apprendre aux adolescents que le préservatif, ça ne sera pas à décorer. Donc, il faut vraiment...
Vous avez raison, certains sujets. Vous permettez que j'ouvre le micro aussi à nos débatteurs?
Ah, mais avec grand plaisir.
Vous savez
quoi,
parce que je les vois, ils sont à la fois Rachida Kaout, bonjour.
Comment ça va? Bonjour, enchanté.
Et également aussi notre ami Karim Maloum, ça va?
Ça va très bien, c'est un plaisir de venir, toujours.
Rachida, je vous ai vu secouer la tête. Pour quelle raison?
En fait, il y a juste un point qui...
Bien dans le micro, s'il vous plaît.
Voilà. Il y a juste, effectivement, un point que je dois soulever par rapport à vos propos, c'est que, l'inscrire, en fait, dans la Constitution, c'est l'inscrire, effectivement, dans le marbre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne bougera pas. On a l'exemple des États-Unis où, effectivement, eh bien, c'est en danger. Le droit, en fait, à l'IVG est continuellement remis en cause. Donc, effectivement, c'est encore et perpétuellement le combat de ces femmes, justement, qui méritent d'avoir ce droit, parce que, suivant les cas, vous avez des cas de viol, vous avez des cas aussi...
Ah, mais c'est
bien...
évident, mais c'est...
Donc voilà, non, mais c'est très important. Donc les femmes, en fait, doivent être respectées par rapport...
Mais vous entendez son message? Est-ce qu'il y avait un intérêt? Je vous donne la parole,
maintenant, c'est un combat qui a été mené depuis Simone Veil, et puis je me félicite, bien sûr, aujourd'hui, parce que c'est une grande avancée. En revanche, je mettrai un petit bémol. Donc, lequel est-il? Moi, ce que je rajouterais, et pourtant, je suis une femme, c'est... ça n'a rien à voir. Vous savez, c'est un combat de femmes. Donc,
personne,
en fait, il n'y a pas de couleur, ni de couleur politique, ni de religion.
Mais c'est porté par votre majorité.
Mais oui, justement, et je m'en félicite. Maintenant, je mettrai un bémol. C'est qu'en est-il, en fait, des hommes? On parle d'égalité. Mais je pense que c'est très important aussi demander l'avis aux hommes qui... Parce que pour concevoir un bébé, nous sommes deux.
Donc, Jean-Marc Governatori, le président.
Là-dessus, je pense qu'il serait important aussi de rajouter ce point.
Jean-Marc Governatori.
Ben, 100% favorable à la loi Simone Veil, et heureusement que l'avortement a été légalisé en France pendant 50 ans. 2, le constitutionnaliser n'était pas une bonne option, selon moi.
Non. Dernière question, parce qu'après, il faut que j'enchaîne, moi, l'interview.
Effectivement.
Je ne devrais pas ouvrir les micros.
Je voulais juste un peu signaler quelque chose. Si vous avez constaté, ces dernières années, on a un mouvement réactionnaire un peu dans le monde, particulièrement en Europe, soit religieux, ou de l'extrême droite, ou des islamistes, etc. Je pense le mettre dans la Constitution, une façon de le garantir, et c'est demain, il y a un basculement, il peut y avoir un basculement, je trouve une certaine naïveté de votre part, de considérer, il ne se passera rien dans 5 ans, dans 10 ans, le mettre dans la Constitution, c'est de garantir cette liberté aux femmes d'avoir ce droit à la garantie.
Monsieur le Président,
vous sous-estimez les réactionnaires qu'il y a dans l'Europe.
Il n'a pas tort, hein, beaucoup de réactionnaires.
Ah oui, mais quand on a 65 ans et qu'on a écrit 15 livres, on n'est plus naïf. Donc je connais fort bien le sujet. Et donc je répète l'évidence que si un autre pouvoir avait la capacité et la volonté de changer la loi, il pourrait tout autant changer la Constitution.
Il faut les 3/5.
C'est du pur marketing. Il y aurait le 3/5 aussi.
Ah bon? C'est la Bérézina.
Quand Sandrine Rousseau s'enthousiasme pour une décision de Macron, c'est inquiétant, je trouve.
On vous parlait d'ouvrage, justement, Mathias Leboeuf a consacré un long témoignage, un long entretien, c'est moins qu'on puisse dire, qui s'appelle Jean-Marc Governatori, l'écologiste inclassable. C'est ce qu'on disait ni de gauche ni à droite. Allez vous le procurer. On aura l'occasion d'en reparler.
Avec plaisir. Ben en fait, il pensait au début que j'étais de droite. Il a observé que après 100 heures d'entretien sur une année, qu'en fait, je n'étais vraiment
c'est pour ça qu'il
pas
a dit
à droite
inclassable.
Et pas à gauche, et qu'il m'a noté inclassable, tout à fait.
Et c'est un homme de gauche qui le dit. Vous avez suivi justement cette ambiance concernant les élections européennes. Et justement, Monsieur le Président, je voudrais vous poser la question. Vous savez, la tendance en ce moment, on parle beaucoup de Rassemblement National, du Rassemblement National avec cette campagne qui a été lancée désormais par son président, qui s'appelle donc Monsieur Jordan Bardella. Comment vous captez cette ambiance, justement? Comment vous la relevez? De quelle façon vous allez tenter de faire entendre, y compris votre voix? Ça va pas être simple, franchement, cette campagne, qui est déjà lancée, disons-le clairement, Monsieur le Président.
Ah ben, c'est à pleurer quant au niveau de la politique nationale aujourd'hui dans notre pays. Monsieur Bardella, avant qu'il soit élu en 2019, il avait dit « Élisez-moi, vous allez voir ce que vous allez voir ». C'est un fait. Et il a fini promis en 2019. On a vu. Aujourd'hui, il répète que les problématiques sont les mêmes qu'en 2019. Donc, dans un monde logique, il n'a pas à se représenter. Il a échoué. Si vous appelez votre électricien pour réparer la lumière à Beurre FM, qui vient une fois, ça marche pas. Deux fois, ça marche pas. Trois fois, ça marche pas. Vous le virez. Le fait est qu'il a échoué pendant ces cinq ans, dans sa logique à lui. Donc, il ne devrait même pas se représenter.
C'est officiel. Vous êtes tête de liste, d'accord, aux européennes.
Tout à fait.
D'accord.
Et je serai député dans trois mois avec quatre autres députés écologie au centre.
Question, comment comptez-vous entendre votre voix justement dans cet échiquier européen qui s'installe? On a plutôt une tendance avec le Rassemblement National et de l'autre, et les filles qui grattent du terrain. Comment vous voulez exister dans ce paysage politique?
Le fait est que dans la région sud, qui est la région qui vote le moins écolo en France, dans notre pays, il y a 13 régions métropolitaines et 5 dom-toms, 18. En vote écolo, la région sud est la 18e, celle qui vote le moins écolo. Et pourtant, en 2021, ma liste est parvenue à dépasser les 5%. Et aux européennes, quand vous dépassez les 5%, vous faites au moins 5 députés, vous êtes élu effectivement, et donc je fais des conférences de presse chaque semaine, donc il y a quelques heures j'étais à Grenoble, je suis revenu à Paris en train évidemment, exprès pour vous cher Adil,
merci.
Et par conséquent, cette présence locale chaque semaine dans les départements et par ailleurs faire quelquefois des médias nationaux comme le vôtre, feront que le score nous le ferons dans 3 mois.
Qu'est-ce que justement, vous, la tête de liste, comment vous voulez donner, quel est le ton que vous voulez donner, installer justement dans cette campagne?
Ah ben il faut arrêter le grand théâtre. Donc, stopper le grand...
Incarné par qui?
Ah ben, par tous les partis conventionnels. On revoit Bellamy, on revoit ELV, on revoit Bardella, mais c'est hallucinant, quoi. Mais c'est incroyable. Mais comment ils osent? Quand on fait le bilan français et le bilan européen en matière sanitaire, en matière financière, en matière environnementale, échec total.
Quelle analyse vous portez justement sur la politique actuelle?
Ah ben, ils vivent dans le monde parallèle. Donc, il faut vite les ramener dans le monde réel.
Y compris Emmanuel Macron, le président?
Et comment? Quand il ose vous dire que le second quinquennat sera écologiste et qu'il met le permis de voiture à 17 ans, donc, de fait, dans notre pays, il y a 800 000 jeunes de 17 ans, donc potentiellement, il y a 800 000 voitures en plus sur les routes. Oh. Non, mais les fous ont pris le contrôle de l'asile. Donc, il est urgent qu'il y ait une nouvelle offre politique. C'est nous qui l'incarnions. Et s'il n'y avait pas la liste écologie au centre, qui est la liste des solutions, il n'y aurait que la liste des problèmes, qui est incarné par les autres listes, manifestement, qui étaient là en 2019, qui étaient là en 2014, qui étaient là en 2019, et on répète les mêmes choses.
Vous avez le sentiment, franchement, disons-le sans démagogie, vous n'aimez pas la démagogie, mais justement, parlons-en sans langue de bois. Franchement, vous avez le sentiment que les Français sont sensibles à la question de l'écologie? Déjà, ils n'y comprennent pas grand-chose, mais en plus, vous les embrouillez avec gauche, pas à droite. Franchement, on vous pose la question, sans détour.
Non mais l'ambition n'est pas de faire 100% des suffrages. Il est vrai que dans un monde normal, dans un monde rationnel, tout le monde voterait écologiste et Yannick Jadot aurait dû faire 100% des suffrages. Il a fait 4,5%. Parce qu'aujourd'hui le message passe mal, parce que le message il est vrillé.
Il est brouillé.
Quand on dit l'écologie est à gauche, c'est une faute capitale. L'écologie elle est centrale et l'écologie centrale elle est portée par ma liste écologie au centre. Et vous observerez que malgré qu'on est moins médiatisé que d'autres pour l'instant, eh bien nous réaliserons le score que nous réaliserons et ce sera un cataclysme schisme politique en France qu'une liste non conventionnelle parvienne à faire des députés. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République, comme ça s'est passé au régional. Au régional, jamais une liste n'avait dépassé les 5% face à Europe Écologie. Ça se passera en 3 mois pour les européennes.
Vous êtes le président fondateur, donc, justement, d'Écologie au Centre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs? Ce sera la question de la fin, justement, pour les... Vous reviendrez de toute façon ici, on a le temps, hein, mais vous reviendrez en parler. Qu'est-ce que vous avez envie de livrer principalement comme message, vous, président?
De les prier de bien vouloir entendre que voter, c'est un acte lourd, c'est un acte grave, qu'il faudrait ne pas voter par habitude et qu'il faudrait ne pas voter par colère, qu'il est important d'examiner le CV des têtes de liste et les projets de société qui sont portés. Et si les Français font ça, on fera un score canon.
Merci Jean-Marc Governatori, merci infiniment Monsieur le Président, fondateur donc d'Écologie au Centre. Vous reviendrez ici évidemment.
Avec plaisir.
On en rediscutera. Allez, c'est parti, on marque cette première pause et on se retrouve avec nos débatteurs influenceurs et débattrices aussi pour parler des sujets justement d'actualité. On commencera avec celui de l'IVG qui est désormais inscrit dans la Constitution. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
C'est parti pour le face-à-face, chers amis.
Les informés. Le face-à-face
avec justement ce tour de table. On va commencer par la seule femme qui est parmi nous, Rachida Kaoud. Comment ça va?
Ça va, merci.
Plaisir de vous retrouver, c'est bien, ça fait plaisir ça.
Bah écoutez, c'est partagé.
Mais oui, il faut venir régulièrement nous voir, ma chère Rachida.
Avec plaisir.
Élue sur Ivry-sur-Seine.
Exactement.
Et évidemment, vous représentez la majorité ce soir. Donc autant dire Emmanuel Macron.
Oui.
Oui, fier, je pense.
Ah oui, bah, vous savez, oui. Moi, je suis une femme de conviction. Donc,
oui, absolument.
Et avec une colonne vertébrale, donc je vais jusqu'au bout de mes idées.
Effectivement. Vous êtes républicain.
Oui.
Oui, fier de l'être aussi.
Tout à fait.
Ali Hamza, élu aussi. Hein.
Oui.
Ouais. Rappelez-nous.
Ça va faire pratiquement 20 ans maintenant
20 ans.
Que je suis à droite.
93.
Oui, c'est ça.
Ouais. Quelle ville?
Livry-Gargan.
C'est ça. Exactement. Tout se passe bien?
Super.
Karim Haloum, comment ça va?
Très bien, moi, je vais me présenter assez rapidement. Hein. Je suis un républicain, un laïc, un universaliste. Aujourd'hui, on a voté une loi au Congrès qui est une loi universaliste.
On va en parler.
Elle n'est pas française. Bien sûr, ça s'applique à la France, mais c'est une idée pour tout le monde.
Oui, ben justement, ça va peut-être donner des idées aux autres pays dans le monde.
Hein. Et la France a toujours été...
On va voir, écoutez.
Le phare de la liberté et de la démocratie.
Oui, elle a porté des idées, effectivement.
Beaucoup d'idées.
Beaucoup, beaucoup.
Nous allons marquer l'histoire.
Augustin
Nous allons
Vargue.
Continuer à le faire aussi.
Bon, on va en parler, justement, on va en parler.
Il est motivé.
Il est chaud, là, il est entraîné.
Il est chaud, notre ami. Hein. Augustin Vargue, comment ça va, entrepreneur?
Bonsoir. Très, très bien.
Tout va bien.
Ravi d'être là.
Allez, l'IVG dans la Constitution, vous savez, 780 votes pour et 72 contre. Rachida Kaoud, qu'est-ce qu'on peut dire, justement? Pour vous, évidemment, c'est une sacrée belle victoire, dites donc.
Oui, c'est une très belle victoire et c'est un combat de femmes. Parce que ça ne vous a pas échappé, hein, l'IVG se pratiquait dans des conditions vraiment pitoyables. Les femmes étaient malheureusement en fait, elles faisaient en fait, si vous voulez, l'IVG dans des conditions atroces. On va pas le redire.
Oui.
Et depuis Simone Veil, on a beaucoup avancé sur cette question-là. Et en tant que femme, je ne peux que saluer cette décision. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit à juste titre, Karim, c'est au niveau international que, justement, nous devons nous positionner aujourd'hui pour encourager
encore et encore. Et vous l'observez, comment vous, l'international? Ils vont regarder ça avec une loupe, ils vont regarder ça avec beaucoup d'intention?
C'est une histoire en fait qui concerne les droits de l'homme, vous voyez. Donc
depuis
aujourd'hui en fait, sincèrement, moi j'ai vécu des expériences dans le pays d'origine de mes parents au Maroc de femmes qui ont donc subi l'avortement, et je peux vous dire que parfois elles l'ont subi dans des conditions mais terribles, où par la suite elles ont carrément été handicapées. Donc là-dessus, je pense que la France est un exemple et aujourd'hui on doit suivre cet exemple. Après, comme je dis, il y a
j'ai
un
envie
petit...
de dire que c'est une histoire de femme peut-être, non?
Non, ça n'est pas
deux
une histoire
aussi.
De non,
d'hommes
non,
aussi.
Ça
oui,
n'est
deux
pas.
Hommes,
ça
d'hommes.
C'est les deux. C'est en fait. Également deux, une histoire d'homme. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je rajouterais même en fait justement un point fondamental qui est aussi de demander l'avis de l'homme, parce que l'IVG se pratique bien sûr avec, on va dire, la liberté des femmes de disposer de leur corps, mais je pense que quand c'est consenti, parce qu'un bébé ça se fait à deux, eh bien on devrait demander aussi l'avis de l'homme s'il est d'accord ou pas que sa femme en fait ou sa compagne pratique l'IVG. C'est quand même hyper important. Moi je suis pour la vie. Donc après maintenant, ça c'est la femme politique qui vous a parlé dans le premier volet en vous disant que je soutiens, je salue et bien sûr j'aimerais qu'on porte ça au niveau international, qu'on encourage aussi de nombreux autres pays à aller dans ce sens. Après maintenant, à titre personnel et privé. Je vous parle en fait d'une personne, d'une femme qui est pour la vie. Nous portons la vie. Et en même temps, quand on tombe enceinte et qu'on a décidé de porter un bébé, eh bien, on doit quand même aussi consulter son conjoint, lui demander son avis, s'il est d'accord en fait pour que justement, eh bien, on pratique l'IVG ou pas. C'est une histoire de respect. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous les femmes, nous avons un arsenal de dispositifs contraceptifs. Aujourd'hui, ouais, nous avons la pilule. Aujourd'hui, nous avons la pilule du lendemain.
Pourquoi l'avoir fait alors pourquoi l'avoir inscrit dans la Constitution?
Là, je vais vous dire, ça c'est une protection qui est fondamentale. Mais je vous parle que je rajouterai un point à justement tout ce qu'on vient de sortir comme armada pour justement sanctuariser, si vous voulez, ce droit fondamental pour les femmes. Et je rajouterai aussi justement le droit à donner l'égalité aux hommes de pouvoir s'exprimer, d'être d'accord ou pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on discute.
Vous voulez prendre la parole, Karim Malo. Allez-y. Ensuite, après, un autre... Et ensuite, après, Ali Hamza et Augustin Varek.
Ça sera... Je vais faire très vite. Déjà, j'ai une pensée. Une pensée à toutes les femmes qui n'ont pas le droit à l'IVG dans le monde, qui, pour des raisons, soit par ignorance, par des raisons religieuses, ou n'ont pas les moyens, tout court, de le faire. J'ai cette pensée pour toutes ces femmes qui souffrent, voilà, sont obligées, sont violées à 13 ans, à 14 ans, ils gardent des enfants, voilà. Donc effectivement, j'ai cette pensée pour ces femmes. J'ai des pensées aussi en France à des femmes aussi qui subissent des pressions de type religieuse ou pour des raisons X, ne peuvent pas avorter. Donc j'ai cette pensée. Effectivement, aujourd'hui, on a montré au monde, non seulement on a voté une loi qui concerne les Françaises et les Français, bien entendu, mais je pense que c'est un exemple pour le monde entier. Je pense que depuis 1789, depuis la Révolution française, la France a donné vraiment l'exemple sur beaucoup de choses, sur les droits, sur les libertés. Nous avons mis la laïcité, nous avons écrit la Déclaration universelle et du citoyen. Nous avons fait beaucoup de choses et c'était un exemple aujourd'hui. Effectivement.
Donc ça voulait le dire, ça ouvre la voie.
Effectivement, l'IVG n'est pas menacé dans notre pays. N'est pas du tout menacé. Mais c'est une façon de le dire que nous avançons. Parce que dans un pays, on va un peu partout dans le pays, dans le monde entier, où les femmes sont agressées, les femmes sont vues de l'autre côté, on les traite comme des mineurs. Souvent, ils sont soumises à des hommes. Que la France donne l'exemple que les femmes ont le droit, uniquement les femmes. Vous parlez des hommes, je suis un peu étonné, mais c'est, on va revenir tout à l'heure. Mais d'accord, mais les femmes sont libres dans leur corps et de leur esprit. Ils décident, elles donnent la vie. La femme donne la vie. Elle décide de le donner.
Pour faire un bébé,
il
faut être deux, hein.
Oui, mais elle décide.
Elle n'a pas tort en même temps.
Oui,
il faut être deux, non?
Je suis entièrement d'accord, mais ça.
Je sollicite nos auditeurs aussi.
Bien entendu, souvent, les femmes qui avortent, souvent, parce qu'il n'y a pas d'homme. Il n'est pas là. Il est parti ailleurs. C'est-à-dire qu'elle se retrouve toute seule. Surtout dans beaucoup de régions, dans beaucoup de pays au monde, la femme se retrouve toute seule. C'est dans cet esprit, je veux dire, on n'a pas à donner à l'homme, c'est à la femme de décider, lui donner ses pouvoirs de le faire.
C'est au cas par cas.
C'est à 99% des cas,
c'est
ça.
Quand on parle de viol, quand on parle effectivement de situations comme celle-ci, bien sûr que...
Sinon, si dans un couple, les gens décident à deux, bien entendu. Mais la loi n'est pas faite pour ce couple parce qu'ils sont capables de tout décider, ils sont capables de le garder. Mais souvent, quand c'est la femme, elle est toute seule. Et la loi aujourd'hui, elle est gravée dans le marbre, elle est de son côté. C'est une grande victoire.
01 53 48 3000, c'est parti pour le jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Mais justement, je voudrais vous entendre, vous les femmes, mesdames. Mesdames, venez nous dire ce que vous en pensez justement. Ali Hamza, on vous écoute.
Bah, moi, ce que j'en pense, en tous les cas, c'est une belle victoire. Hein. Depuis le temps, en fait, l'idée, c'était quoi? C'était soit on était dans une moralité, parce qu'en fin de compte, c'était, il y a quelques décennies, c'était, je dirais, la politique était un petit peu dirigée aussi par les catholiques. Donc, est-ce que c'était bien sous la moralité ou pas? Aujourd'hui, c'est vrai que depuis une cinquantaine d'années, ça a quand même pas mal évolué. Il n'y a pas que l'IVG aussi qui a évolué, parce qu'avant, la femme ne pouvait pas voter. La femme devait demander à son mari un certain nombre d'autorisations pour faire un certain nombre de choses. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Et ce que je trouve aussi qui est plutôt positif, c'est que je remarque que les sénateurs et les députés ont quand même voté majoritairement pour justement ce texte qui sera
780
inscrit
contre ça, 72.
Qui sera inscrit en tous les cas dans la Constitution. J'en suis très content en tous les cas.
Augustin, oui, Augustin Vague.
Pareil, je rejoins tout ce qui a été dit. Ceci dit, je pense que le graver dans le marbre est une décision forte actuellement. Après, je suis pas sûr que ça soit d'une grande efficacité sur le terrain auprès des médecins. Je pense que juste ça peut éviter certaines clauses de conscience que certains médecins auraient pu arguer. Après, effectivement, ça peut dissiper certains problèmes des pays européens, quels pays conservateurs, à qui ça donne peut-être une information.
C'est surtout ça.
Voilà. Ouais. Je pense que ça donne surtout cette information-là vis-à-vis de certains pays européens.
Et ça fait déjà un sujet de polémique, vous savez quoi, messieurs et madame, justement. Les visées dans la Constitution. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un dérapage ou pas? Je vous pose la question. Tiens, en commençant par Rachida Kaout. Jean-Luc Mélenchon qui traite Gabriel Attal de minable petit, l'accusant d'être sexiste, sectaire et sans consistance. Ça cogne fort, hein. Est-ce qu'on peut parler d'un dérapage?
C'est plus qu'un dérapage.
Oui, c'est plus qu'un dérapage, mais bon, je ne vais pas commenter les prises de parole de. Voilà, exactement. Je pense qu'on s'y habitue maintenant. Et bon, il n'y a pas. C'est quelqu'un qui aime qu'on parle de lui, et bien voilà. Aujourd'hui, je pense que.
Il n'a pas pu voter, c'est pour ça. Peut-être qu'il y a de la frustration qu'il n'ait pas pu voter.
Probablement, mais il a toujours besoin d'exister, hein, au même titre que certaines personnalités de l'extrême droite. Après, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne va pas commenter ce qui est.
Justement.
C'est-à-dire que traiter le Premier ministre de stupide.
Karim.
Le Premier ministre, parce que j'ai tweeté, j'ai répondu à la seconde à M. Mélenchon. Traiter le Premier ministre de stupide qui vient de faire un discours au Congrès devant les sénateurs, ça manque de respect aux institutions. Deux, c'est un manque de respect si le président de la République qui convoque le Congrès.
Il dit pas stupide, hein. Il dit petit minable. Minable petit, l'accusant d'être sexiste, sectaire et sans consistance.
Et d'invisibiliser
Attal, minable petit. Moi, je veux dire ce que je lui ai écrit, ce sera mieux parce que j'assume mes responsabilités. Une nouvelle fois, M. Mélenchon, qui est un complotiste et un antisémite, vient d'insulter le Premier ministre, Gabriel Attal, le traitant de minable. C'est vraiment stupide de la part de lui, au lieu de participer à cet événement historique, il a choisi l'injure. Bien entendu, Monsieur Mélenchon, ça fait très longtemps qu'elle a quitté l'histoire.
Vous savez quoi, je vais consulter nos... Oui. Ali ? Oui, Ali ?
Non, je voulais simplement dire que Jean-Luc Mélenchon fait du Jean-Luc Mélenchon. Oui. En vérité, il veut faire le buzz, on va parler de lui pendant un certain temps, et finalement, il a réussi.
Cyril, bonjour Cyril, de Maison Alfort. Bonsoir Cyril.
Bonsoir messieurs, je ne sais pas s'il y a une dame apparemment...
Il y a une dame avec nous, bien sûr, l'élu d'Ivry-sur-Seine, Madame Rachida Kaout, quand même, une des figures éminentes de Renaissance.
C'est peu habile.
Cyril, on vous écoute.
Bon, alors, j'ai un point de vue, et puis également une question derrière. Ok, c'est très bien, ça sera marqué dans le marbre éternellement, ce que je ne crois pas forcément, parce qu'on peut toujours modifier la Constitution. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est une très bonne avancée pour les femmes si on ne fait pas d'autre chose, c'est-à-dire la prévention au sens de la contraception? Quelle information aujourd'hui? Il y a toujours autour de 200 à 230 000 IVG chaque année. Est-ce que sur le terrain, on peut fournir les soins derrière, pas que physiques, mais aussi psychologiques, parce qu'en général, si on fait une IVG, ce n'est pas par plaisir, j'imagine. Donc, moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a un volet que les féministes doivent mettre en œuvre pour qu'il y ait moins d'IVG, mais plutôt de la prévention, plus également que de prévention, au sens, parce qu'une jeune fille de 14 ans, est-ce que c'est l'intérêt de faire un IVG 14 ans? Ça veut dire qu'il faut faire la prévention.
Vous avez raison, vous avez raison. Cyril, merci pour votre question. Ah non, j'ai qu'une question, malheureusement, puisqu'on est pris par le temps. Il est 19h32 et je vais devoir lancer la deuxième pause, pub. Et Cyril, je vous libère parce que Rachida va vous répondre, l'élu.
Merci beaucoup.
Merci Cyril.
Oui, bonsoir Cyril. Merci pour cette remarque très importante.
Exact, il a raison.
Quand on est pour la vie, il faut mettre en place, bien sûr, tout un dispositif et puis faire de la prévention pour justement éviter d'arriver à cette situation et effectivement pratiquer l'IVG. L'IVG n'est jamais chose facile et je pense que toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui et toutes celles aussi qui ont vécu cette sale expérience, hein, je l'appelle comme ça, donc c'est pas chose facile. Donc la prévention, bien sûr, la prévention, il faut qu'on mette le paquet là-dessus et qu'on évite un maximum justement l'IVG parce que c'est quand même tuer aussi un fœtus et en même temps c'est vivre une expérience dans son corps, dans son esprit et puis dans sa tête et dans son entourage. C'est pas quelque chose en fait qui passe de manière anodine. Moi si je dois parler, excusez-moi, de mon expérience aussi, j'ai eu malheureusement beaucoup de mal à voir mes enfants. J'ai quand même subi deux fausses couches qui sont aussi, on peut les apparenter à cette expérience de l'IVG. Et je peux vous dire que vous ne ressortez pas indemne. Donc, ça n'est pas une expérience facile et ça, il faut le rappeler. Les femmes qui ont vécu ça ou bien qui
souhaitent pratiquer l'IVG, bien sûr, eh bien, c'est une décision qui est très difficile à prendre.
Je lance une pause et on se retrouve tout de suite après. Je vous donnerai la parole à Augustin, ainsi que Karim. Vrai. Il y a Sarah aussi du Val-de-Marne. Je voudrais les entendre, les femmes. 0153-48-3000. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés avec Rachida Kaout justement, qui est élu auprès de chez Renaissance. L'élu des Républicains, c'est Ali Hamza, pardon. Karim Maloum qui est avec nous, qui est entrepreneur et un autre entrepreneur également aussi. Augustin, ça va?
Très bien.
Je devais vous donner la parole, Augustin Barry.
Je voulais interpeller.
Allez-y, avant d'accueillir Sarah.
Je voulais interpeller notre élu de la majorité.
Il y a le Vatican aussi qui a tweeté un truc.
Le pape a tweeté?
Oui, il a dit.
J'imagine qu'il est pour, lui.
Ouais.
La constitutionnalisation de l'IVG.
Non, le Vatican s'oppose à l'inscription.
J'imagine bien. Bah oui, tant qu'à faire. Non, je voulais juste interpeller notre élu de la majorité présidentielle, où on parlait de la prévention sur l'IVG et tout ça pour les jeunes femmes.
Bien dans le micro, bien dans le micro, voilà, devant. Pardon. Voilà, voilà, très bien, là c'est mieux.
Et je voulais savoir, puisqu'apparemment le planning familial se plaint de baisse de moyens ces dernières années, je pense que c'est quand même important de les doter de moyens, en fait, le planning familial, afin de répondre aux soucis de prévention pour laisser
Rachida
les jeunes femmes au collège
Sarah.
Et au lycée.
Rachida Kaout.
Oui, pour répondre à votre question, ça ne vous a pas échappé qu'on vient d'augmenter justement les budgets alloués pour accompagner donc toutes ces jeunes filles, toutes ces femmes qui sont présentes au planning familial. Donc, nous sommes au travail. Nous sommes au travail et
C'est une vraie question. Mais,
je peux juste rajouter
que...
Les infirmières se plaignent.
Juste rajouter que...
On manque toujours de moyens et il faut toujours mettre encore plus de moyens.
Karine, je peux t'interrompre? Merci beaucoup. Je pense que l'éducation nationale pourrait jouer aussi un rôle important. Parce qu'on parle beaucoup des filles, des jeunes filles, mais on ne parle pas beaucoup de garçons. Parce qu'aussi, il faut s'occuper de parler de la sexualité dans les écoles convenablement. Je pense qu'on a un retard sur ce plan, parce que quand les garçons ne sont pas bien formés ni armés, ce sont les filles qui trinquent après.
Donc
je pense
qu'il faut
vraiment s'en occuper. Et s'en occuper, c'est le deuxième point. Merci Rachida, je voulais le dire aussi. Il y a les réseaux sociaux. Il y a surtout les réseaux sociaux qui jouent un rôle néfaste, etc. C'est un sujet vraiment de cause nationale, de s'occuper des garçons à l'école et... sur les réseaux sociaux. Voilà ce que
je pense qu'il faut densifier l'instruction civique sur ces points-là, je pense.
Tout à fait.
Et aussi l'SVT, puisque normalement c'est enseigné dans les sciences et vie de la Terre. Bonjour, et je pense qu'il faut aussi renforcer sur ce levier-là.
Je vais accueillir Sarah du Val-de-Marne. Sarah, bonsoir Sarah, parce qu'il faut qu'on avance aussi dans les sujets. Bonjour Sarah.
Bonsoir à tous, merci de m'accueillir.
Je vous en prie. Allez Sarah.
Juste une chose, on ne dit plus centre de planification, mais on dit centre de santé sexuelle.
C'est vrai. Exact, merci pour l'info.
Merci.
Enfin, je vous dis ça, c'est qu'elle travaille dans un centre de protection maternelle et infantile et on pratique l'IVG médicamenteuse depuis maintenant un certain temps. Et je remarque effectivement on a beaucoup plus de demandes parce que c'est une pratique qui est plus discrète en fait que d'aller à l'hôpital ou dans un centre plus médical. Vous voyez, la PMI, ça reste quand même un peu plus discret et l'IVG médicamenteuse est beaucoup demandée. Et concernant la prévention, il faut savoir qu'il y a quand même des duos d'infirmières qui tourne, en tout cas, je parle du Val-de-Marne, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, enfin les autres villes de France, mais effectivement, dans quasiment tout le Val-de-Marne, il y a des infirmières qui vont dans les collèges, donc dans les écoles, enfin pour 4e, 3e, donc ça doit être à peu près 14 ans, 13 ans, je pense, pour les filles et les garçons, pour faire justement cette prévention sur la contraception, sur la sexualité en général. Donc je pense quand même que les jeunes sont bien informés, et puis bien sûr, il y a les réseaux sociaux, effectivement, il y a de tout dedans, donc il y a à prendre du bon et du mauvais. Mais en tout cas, par rapport à l'IVG, je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'il y a des femmes, malheureusement, qui sont un peu désemparées quand elles apprennent une grossesse. Ce n'est pas le bon moment. Elles ont commencé une vie professionnelle, et souvent, ce n'est pas le bon moment. Et comme disait l'élu tout à l'heure, je ne sais pas, vous m'entendez?
Très bien, allez-y, bien sûr, attentivement.
Religieusement même.
Je suis en train de parler, je pensais que je parlais toute seule.
C'est vrai, on vous écoute, madame.
Ça veut dire qu'on est attentif. Allez-y.
D'accord. Donc, comme disait l'élu tout à l'heure, je pense qu'effectivement, d'en parler à l'homme, enfin, la personne avec qui la dame a eu ce bébé, cette grossesse, d'en parler à l'homme, je trouve que c'est fondamental parce qu'on est à deux, effectivement. Et il faut savoir aussi que quand il y a une IVG...
Vous rejoignez Rachida Kaout, l'élu, justement.
Ouais. Parce que j'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'est que c'est une maman qui a eu déjà 4 enfants et qui s'est dit que si elle en a un 5e, son mari va péter un câble. Donc elle a voulu faire une IVG, discrètement, médicamenteuse, sans en parler. Mais il faut savoir qu'on a un service de conseillère conjugale, de psychologue, et c'est préférable, souvent, on leur propose de voir un psychologue avant de pouvoir faire cette IVG. Mmh. Et bien, cette dame-là, en parlant avec la psychologue, et ben, elle a convaincu d'en parler à son mari. Ben, figurez-vous qu'il était très content et qu'ils ont gardé cette grossesse.
Voilà, voilà, vous avez vu, c'est beau, ouais, ça. C'est beau. Ça fait plaisir d'entendre ouais, quand même. Vous avez ouais. vu, ben voilà. Merci à Rachida qui, effectivement, a eu raison de lancer ce cas de figure. Merci, Sarah, d'être intervenue. Ça fait plaisir, Sarah.
Merci beaucoup à vous.
Merci Sarah. Merci, Sarah. Du Val-de-Marne. Allez, tout de suite, c'est parti pour un autre sujet. Il est 19h43. Vous savez quoi? Je vous laisse le choix. Madame, messieurs, soit on parle de la déclaration de Macron qui dit « je pèse mes mots et je les mesure concernant l'Ukraine », ou alors le conflit avec les propos de la vice-présidente américaine qui appelle à un cessez-le-feu.
L'Ukraine, ça nous va.
On peut faire les deux.
Si on a le temps, les deux.
Je trouve qu'on n'aura pas le temps, mais bon.
Mais c'est pas mal.
Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, c'est pas mal, parce que ce qu'il nous a dit, quand même, c'est
alors,
pas
sympa. Les deux. Je vous laisserai un petit mot, Rachida.
Je peux parler sur l'Ukraine, si vous voulez.
Effectivement,
le président de la République a dit quelque chose de très important.
L'envoi potentiel des troupes. Voilà ce qu'il a dit.
Beaucoup de gens ont retenu que cette phrase. Je pense... La phrase du président de la République doit la s'utiliser dans un autre vocabulaire et dans un autre, même dans une autre grammaire de la dissuasion nucléaire.
C'est-à-dire
que quand on parle de dissuasion nucléaire, il n'y a que 4 pays au monde qui comprennent le discours. Vous avez la Russie, les États-Unis, l'Angleterre et la France. Il n'y a que ces pays qui comprennent le discours. Quand on dit, ça, je donne un exemple, quand l'URSS a envoyé ses missiles vers Cuba, Kennedy, quand il a pris la parole, il a dit « j'en veux envoyer les militaires ». En disant « j'envoie les militaires », en fait, j'envoie l'arme nucléaire. Dans le langage de la dissuasion nucléaire, ce qu'il a fait le président de la République est exceptionnel. Il a introduit l'incertitude. Et cette incertitude a piqué Poutine. Et c'est très bien qu'il parle à une puissance nucléaire. Je pense, on ne l'a pas bien compris, l'histoire jugera. Je pense que c'est une excellente position. Il a pris une décision courageuse.
En gros, je vais envoyer la bombe nucléaire, c'est ce que vous voulez dire.
Non, c'est pas ça. Non. Vous êtes en train vraiment de caricaturer mes propos et celui de la
présidente. Surtout que Poutine n'en a pas, lui.
Pas du tout. Sûr. Je pense qu'il a dit... Vous savez, en politique, il y a quelque chose qu'il faut.
Oui, c'est vrai, vous avez
qu'il faut poser.
Une grille de lecture.
C'est qu'à un certain
c'est ce
moment.
On appelle la grille de lecture.
Comme l'a dit François Hollande, le président Poutine comprend un seul langage, c'est le rapport de force, et le président de la République lui a présenté le rapport de force. Voilà ma lecture.
Le rapport de force. Ça fait plaisir, Rachida Kaout.
Ça fait plaisir.
Vous faites plaisir, Rachida Kaout. Vous lui faites plaisir.
Karim, on va le récupérer chez nous, parce que pour le coup, là, tu as de très, très bonnes analyses. Donc, oui, ça ne vous a pas échappé quand même que. Ces propos ont été tenus dans un certain contexte.
Oui.
Donc, avec, bien sûr, aujourd'hui, un candidat aux élections présidentielles aux États-Unis qui annonce clairement que l'OTAN ne servira pas de parapluie aux Européens, d'accord, en cas de guerre.
Oui.
Vous avez aussi l'assassinat de l'opposant politique, de Poutine. Donc, c'est un contexte qui est quand même très particulier. Et le président Emmanuel Macron a tenu ses propos, bien sûr, pas pour... lancer en fait la guerre et dire que nous rentrons en guerre. Il a envoyé un message fort à Poutine, mais également un message fort aux Européens, aux pays partenaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même, faut pas oublier que la France, nous sommes une des puissances militaires européennes les plus, une des plus puissantes. Donc c'est un appel, si vous voulez, qu'il a fait aussi
Rachida.
Aux pays européens pour rejoindre et soutenir justement cette force militaire. Okay
mais Poutine n'a pas peur d'aucun pays européen, sauf
attendez,
la France.
Je vais vous dire. Donc,
sauf la France, il n'a pas besoin d'aucun pays.
On va être seul au monde.
Il faut connaître aussi le droit humanitaire. Quand il dit des troupes au sol, ce ne sont pas des troupes au sol qui vont aller combattre, ce sont des troupes qui vont aller former. Former en fait justement ceux qui vont utiliser tous les 4 milliards par exemple d'euros en matériel militaire.
Vous avez raison, c'est
donc,
vrai,
non, mais c'est très important de décrypter
après, vous avez
les
raison,
choses.
Karine, ouais.
Et c'est pour ça que.
Poutine redoute la France. Ça, c'est vrai.
Non, c'est pas réalité. Une histoire de redouter ou
non,
quoi que ce soit.
C'est pour la France.
Je pense qu'il
n'a pas peur.
Il n'a pas peur. Bien sûr qu'il a peur.
Mais la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire.
S'il vous plaît, clochette.
Bon, en tous les cas, moi, je
suis. Ali Hamza.
Bah justement, on est en pleine élection européenne, on a besoin d'Europe, et on a un président qui nous annonce comme ça, tout seul, etc. Moi, je vais envoyer des troupes en Russie. Mais quand on pense à tout ça, alors que le monde, il est en train de changer, on parle de la BRICS, on parle de qu'il va y avoir plusieurs continents, etc., économiques, la déclaration qu'il a fait Emmanuel Macron, économiquement, ça a eu des répercussions. Ça veut dire qu'en fait, il pense tout seul. Il réfléchit tout seul, il se croit le maître du monde. Je crois qu'à un moment donné,
non, je crois pas ça.
Non, 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 non,
il s'est concentré.
Il peut quand même aller au bout de sa logique. Oui. S'il vous plaît.
Moi, je pense qu'il y a un moment donné, etc., il aurait dû quand même consulter, justement, les pays européens. Il aurait dû quand même consulter éventuellement l'ONU, même si on pense que l'ONU aujourd'hui sert pratiquement à rien, etc. Mais, Il a fait une déclaration comme il l'a fait. Je peux vous dire, et ça on le verra, moi, les conséquences qu'il va y avoir.
Est-ce que vous pensez qu'on va aller soutenir l'Ukraine, même si on aime l'Ukraine, ou alors qu'on aime les Ukrainiens?
Il y a un moment, on va arrêter. S'il vous plaît, j'espère
que c'est concerté avec les militaires et tout ça, enfin, tout le Pentagone et tout ça.
Non, en fait, il y est allé.
Les Américains ne sont pas d'accord, en fait, j'ai pris un grand nombre de dirigeants européens à contre-pied et à rebours, puisque Olaf Scholz, tout ça, tous ces gens-là, ils ont dit niet, on n'ira pas, de toute façon, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas d'argent. Mais ceci dit, donc ça veut dire qu'il est, ça veut dire que le président de la République est seul au monde.
Non, pas du tout. Il sera seul. Bien sûr. Il y avait Karim juste avant. Il y avait Karim. À chaque fois, vous m'enlevez la parole. J'ai l'impression
qu'on oublie quelque chose, que la Russie est l'agresseur et l'Ukraine est agressée. Aujourd'hui, pour que l'agresseur accepte de discuter et de se mettre à table, il faut quelque part lui mettre la pression.
D'une phrase.
Et la pression est laquelle ? Il n'y a que la dissuasion nucléaire.
La peur de la dissuasion nucléaire.
On n'est pas là pour s'envoyer des obus dans la tronche.
Absolument.
Hein. Donc là, il y a l'Ukraine, c'est très simple. C'est un tiers des ventes céréalières dans le monde. C'est un tiers des ventes de gaz dans le monde. Ça veut dire quoi ? On n'y va pas et tout comme ça par gaieté de cœur. On est là pour protéger justement la planète contre ce qui pourrait se passer et une éventuelle guerre qui est à l'opinion.
Et on est dans les clous, et il est 19h50 et c'est parti pour le Quoi de Neuf.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, c'est avec Michel Taubi. Il est à la fois éditorialiste, mais également aussi le directeur fondateur, s'il vous plaît, directeur fondateur d'Opinion Internationale. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Michel est avec nous, non ?
Même Kennedy l'a fait avec un micro, hein.
Oui, je suis là.
Ah, vous êtes là. Bonsoir. Vous allez bien ?
Très bien. Et vous, je salue les auditeurs de Beurre FM et vous-même, cher Adil.
Merci en tout cas d'être avec nous. Je vous lance tout de suite parce que comme ça, on est dans le timing. Vous allez nous parler de l'IVG ce soir qui est dans la Constitution.
Absolument. Je voulais en fait saluer. Je pense que c'est un moment peut-être un peu plus consensuel que le débat que vous venez d'avoir sur l'Ukraine, mais sur l'annonce d'Emmanuel Macron. Non, je voulais effectivement saluer. C'est un moment symbolique, mais on a besoin de symboles. Le fait que le Congrès, c'est-à-dire la réunion du Sénat et de l'Assemblée nationale, réunie donc à Versailles, a voté très très largement à 780 voix. Il y a 72 parlementaires qui ont voté contre, 52 qui se sont abstenus, et donc une très large majorité du Congrès a voté l'inscription dans la Constitution de la liberté pour les femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Alors c'est plus un combat symbolique, parce qu'aujourd'hui, aucun parti politique, aucune force organisée ne remet fondamentalement en question le droit à l'IVG, mais c'est un symbole très fort, c'est le symbole de la liberté des femmes qui progresse peu à peu, et Dieu sait qu'il y a des remises en question de ces libertés. Et donc je pense que par ce genre de vote qui arrive rarement, la Constitution se rapproche un petit peu des préoccupations quotidiennes de nos citoyens. Moi je me souviens en 2007, Jacques Chirac avait fait inscrire dans la Constitution l'abolition de la peine de mort, dans un article qui est dédié dans la Constitution. Aujourd'hui, c'est la liberté de recourir à l'IVG. Voilà, c'est un progrès symbolique, mais c'est un progrès important et c'est une grande victoire pour les femmes et pour les hommes aussi. Et je voulais le saluer et le relever ce soir à l'antenne de Beurre FM.
Eh bien, merci, c'est relevé et c'est dit. Et merci infiniment pour votre billet d'humeur, comme chaque lundi d'ailleurs, mon cher Michel Taube. Excellente soirée.
Avec plaisir. Merci à vous. Merci.
Et à lundi prochain, sans faute, mon cher Michel Taube, géopolitologue, éditorialiste, pardon, mais également directeur fondateur de l'Opinion Internationale. C'est déjà la fin.
C'est déjà la fin, malheureusement.
Vous voulez dire un mot sur le cessez-le-feu ? Rachida.
Vous voulez qu'on en parle ?
Non, c'est, je rends l'antenne, moi. C'est vous, si vous voulez dire un petit mot. Mais moi, je rends l'antenne.
Oui, il faut cesser cette guerre, finalement fratricide, parce que au final, je pense qu'il faut qu'on lance un appel d'apaisement et puis que toutes les communautés, d'où qu'elles viennent, de n'importe quelle origine, eh bien, qu'elles appellent justement à l'union et à la résilience.
Rachida Kaout, élu d'Ivry sur Seine. Merci à Ali Hamza.
Merci, Livry Gargan.
Karim.
Oui, pour un cessez-le-feu, à une condition qu'on libère les otages.
Merci.
Exactement.
À tout Augustin Vargue.
Merci.
On va en parler, hein. Vous savez, je vais faire cette émission spéciale, moi. Je vais réunir des élus, des pro-israéliens, des pro-palestiniens, et on va tenter de faire avancer le débat. C'est aussi le rôle des informés sur BFM. Merci Solal à la réalisation, Time Sport, Bilal, Vanessa, 21h, demain Kim. À demain avec autant de plaisir, vous le savez, mais surtout qu'est-ce qu'on dit ?
On ne lâche rien.
Au revoir.
Merci. Voilà. Heureusement, vous êtes là pour suivre.
Karim,
c'est un habitué des lieux. C'est un habitué des lieux, Karim.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.